Donc on continue dans l'épître aux Romains, c'est le septième message, Romains chapitre 2, versets 1 à 6. Donc vous allez vous rappeler que dans l'original, quand Paul a écrit ce livre, c'était un seul texte, il n'y avait pas une division en chapitres, il n'y a pas de division en versets. Et quand on va lire cela, je vais commencer encore avec le verset 32 du chapitre 1. Et après, on verra le chapitre 2, verset 1. Dans les sujets que je vais traiter aujourd'hui, premier sujet, ou dans les choses que nous allons voir, on va parler de la repentance. La repentance. Et puis aussi, on va parler, c'est vraiment le grand sujet aujourd'hui, c'est la bonté immesurable de Dieu. La bonté immesurable de Dieu. Donc, on va tourner à Romains. Donc, chapitre 2, on commence avec le dernier verset du chapitre 1. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Ô homme, qui que tu sois, donc chapitre 2, verset 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges. Tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fasse? Que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Et c'est là que je m'arrête. Et bon, vous voyez bien, il y a deux points là, et puis le verset 7. Mais ce sera trop long de continuer. Donc je m'arrête avec les deux points. Et la prochaine fois, je vais continuer sur le texte, par ce qu'il veut dire par ces choses-là. Donc, je voudrais expliquer un petit peu les mots dans ce paragraphe, en commençant donc avec le verset 1, Romains chapitre 2, verset 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Donc, dans le grec, le mot donc, c'est le premier mot. Et ce mot donc, ça lie avec tout ce qui est allé auparavant. Par conséquence de ces choses-là, faisant référence à ce dernier verset du chapitre 1, il veut dire, puisque tu aimes ce que tu condamnes chez ton prochain, hein, parce que c'était ça le sujet à la fin du chapitre 1, puisque tu condamnes chez ton voisin ce que tu aimes faire toi-même, okay, il dit, ô homme, qui que tu sois, donc toute personne, c'est dans le grec, c'est toute personne qui juge, pas de distinction. Toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant, donc en remettant en question les autres, eh bien, tu te condamnes toi-même. Tu te juges toi-même digne d'être puni. C'est ça la signification du mot dans le grec. Tu te juges toi-même digne d'être puni, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Donc le mal est le mal. Point final. Il n'y a pas mal pour lui, mais pas mal pour lui, pour moi-même. Ça ne marche pas comme ça. La Bible nous dit, et c'est au verset 11, on va voir peut-être la semaine prochaine, devant Dieu, il n'y a point d'exception de personne. Dieu ne dit pas, ah ben, j'aime bien Billy, donc il peut le faire, mais l'autre ne peut pas le faire. Si l'autre le fait, c'est mal. Si je le fais, c'est mal. Dieu ne fait pas de distinction d'exception de personne. Verset 2. Nous savons en effet que le jugement de Dieu, Donc, c'est le procès et le verdict. Hein, si vous allez au tribunal, il y a le procès, et puis à la fin, il y a la condamnation. Hein, c'est donc le verdict même. Avec le procès, le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses, le jugement de Dieu est selon la vérité. Donc, ils commettent quelque chose. Okay? Donc, il fait référence au chapitre 1. Et vous savez bien, il y avait une longue liste des choses dans le chapitre 1. Mais, ce n'est pas tout. Alors, cette liste qui est dans le chapitre 1 est augmentée par Jésus. Dans Matthieu chapitre 15, le verset 19 et 20, quand Jésus parle de nos péchés ayant leur origine dans nos cœurs. Donc Jésus dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. C'est déjà là, dans le cœur. Et puis encore, la liste est augmentée par Paul aussi, encore. Dans Galates chapitre 5, et les versets 19 à 21, quand il va parler des manifestations extérieures qui sont typiques à notre humanité. Okay? Donc là, dans Galates chapitre 5, verset 19, Galates 5, 19, or, les œuvres de la chair, donc les choses que produit notre humanité, tout naturellement, sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc il veut dire que la liste n'est pas finie. Il y a plein de choses qui sont toutes naturelles à notre nature pécheresse humaine. Et puis l'apôtre Jacques, il montre qu'être coupable d'un quelconque péché provoque la condamnation de la loi toute entière. Donc c'est dans Jacques chapitre 2 et verset 10, il dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, deviennent coupables de tous. Donc, à bien comprendre, contre à la loi, je ne dis pas contre à Dieu dans son amour, etc., mais contre à la loi de Dieu, et contre à la condamnation que Dieu exige sur le péché, il n'y a aucune tolérance. On commet un seul péché et on devient coupable de toute la loi. Verset 3. Et penses-tu, ô homme? Donc, ça veut dire, est-ce raisonnable de ta part, ô homme? On lui dit ça. Penses-tu, ô homme? Est-ce raisonnable de ta part, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Que tu arriveras à t'enfuir devant le jugement de Dieu? Parce que, voilà, j'ai condamné l'autre, je vais pouvoir m'enfuir. Eh bien, ça c'est nous. Ça c'est vraiment, hein, on veut bien montrer le droit à l'autre. On pense qu'en montrant la culpabilité de l'autre, on arrivera à dévier l'attention de la justice de moi-même, de soi-même. Okay? Pourtant, quand on montre que l'autre est coupable de ce que je sais est mal, et que je le fais moi-même, eh bien, on montre par cela que je suis quand même coupable. Je sais que je suis coupable, mais j'espère que Dieu va mettre son punition sur lui et pas sur moi. Donc, il y a deux choses ici. Il y a premièrement, dans le verset 3, on veut éviter le jugement en condamnant les autres. Et puis maintenant, dans le verset 4, on va montrer que, donc soit c'est pour condamner l'autre qu'on essaie d'échapper le jugement, ou bien on connaît que je suis coupable, mais on refuse la bonté de Dieu. Donc c'est deux façons que les hommes se rendent encore plus coupables devant Dieu vis-à-vis de son jugement. Okay? Donc verset 4. Ou méprises-tu Donc, c'est un peu l'idée, je vais expliquer plus tout à l'heure, mais où méprises-tu, penses-tu si peu de la richesse, de la bonté, de la patience et de la longanimité de Dieu? Penses-tu si peu de ces choses, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Donc, ne reconnaissant pas, c'est nous ne savez-vous pas. Vous êtes au courant, n'est-ce pas? Vous savez bien que Dieu est bon. Et puis, non, vous l'ignorez. Et pourtant, il dit que pourquoi Dieu est bon? Pourquoi il est riche dans sa richesse, il est riche dans sa bonté, sa patience et sa longanimité, que je vais expliquer tout à l'heure? C'est parce qu'il veut nous, il dit, pousser à la repentance. Alors, ce mot pousser, c'est pas le mot pousser. Ce mot pousser, c'est un mot qui veut dire tu mènes, tu guides, tu conduis à la repentance. C'est l'idée de se mettre en avant et de frayer le chemin. C'est comme un berger qui marche devant ses brebis, en avant de ses brebis, et non pas comme le cowboy qui incite les vaches à avancer en les poussant par arrière. Okay? Dieu est comme le berger. Il fait tout le nécessaire pour amener les gens au salut et dans le bonheur éternel. Donc je vais donner un résumé, je vais relire le verset, puis je vais donner globalement l'idée. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Donc voilà l'idée. Bien que Dieu, dans sa bonté immesurable, montre le chemin vers la repentance, le non-croyant méprise cette bonté et le montre par des insultes actives. Et donc, dans le verset, il y a cette point d'interrogation. Une telle ignorance n'est-elle pas volontaire? Et la réponse, oui, c'est volontaire. Au verset 5. Mais, par ton endurcissement, donc en fonction de ton endurcissement, donc l'endurcissement, c'est l'obstination ou la perversité, en fonction de ton endurcissement et en fonction de ton cœur impénitent, donc impénitent, c'est le mot sans repentance. Nous, on voit impénitent, mais c'est le mot repentance avec le non, pas de repentance, ok? Tu amasses, tu emmagasines un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Parce que tu connais bien ta culpabilité et pourtant tu refuses la bonté de Dieu, sans donc repentance, volontaire, il n'y a pas de repentance, tu emmagasines, tu accumules un trésor de colère. Donc la Bible nous dit que tout le monde amasse un trésor. Tout le monde. Ok? Soit on amasse un trésor de ta culpabilité qui est jugée digne de la punition éternelle. Bon, ça, c'est très négatif. Ou bien on amasse un trésor de justice éternelle bâti sur Jésus-Christ. Soit l'un, soit l'autre. Mais tout le monde amasse un trésor dans le domaine spirituel. Dans le verset 5, qu'on vient de lire, la Bible parle d'un trésor de culpabilité, trésor de colère, que le non-croyant amasse tout en sachant que ce trésor témoignera contre lui au jour du jugement. Il sait, et il le fait quand même. L'homme et la femme sont-ils voués à la destruction? Eh bien, dans le péché, oui. Oui. Voués à la destruction. Y a-t-il quand même de l'espoir? Eh bien, encore oui, il y a de l'espoir, mais seulement par Jésus-Christ. Okay? Donc, c'est bien comprendre, sans Christ, le jugement attend le non-croyant. Sans Christ, le jugement attend le non-croyant. Par Jésus-Christ, la totalité de nos fautes sont anéanties. De mes fautes, de vos fautes. Lavé de tout. Sur la croix, Jésus a ôté toute notre culpabilité. Rien qui reste. Si vous n'avez pas encore fait, aujourd'hui même, vous pouvez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur. Et ainsi, Dieu, il va effacer toute votre culpabilité, la totalité de vos péchés, et vous donnera en même temps la vie nouvelle, la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, à partir de ce moment, à partir du moment que vous demandez pardon à Dieu par Jésus-Christ, ça veut dire à partir de votre nouvelle naissance, Dieu commence à enregistrer tous vos bienfaits. Il commence à amasser dans les lieux célestes ses trésors pour le bonheur éternel. Okay? Ce trésor est un trésor de bienfaisance. Eh bien, il n'y a pas de comparaison entre les deux trésors. Okay? C'est deux mondes absolument différents. Avant de croire en Jésus-Christ, toute œuvre est teintée par le péché, par le mal. Certes, il faut faire le bien. Mais le bien, avant de se convertir à Jésus, le bien est considéré comme un dû. Une chose qu'il faut faire en attendant que le problème du péché soit réglé. Bien sûr, Dieu ne condamnera personne pour ses bonnes actions. Mais ces mêmes bonnes actions n'ont aucun mérite, aucune valeur pour Dieu. Le Dieu Saint ne voit que les fautes. Il ne voit que les lacunes. Il ne voit que les malfaisances de ses ennemis. Et c'est pour cela que Dieu ne pèsera jamais les bonnes actions contre les mauvaises actions. Parce que avant de croire en Jésus-Christ, il n'y a pas du tout de bonnes actions sur votre compte. Tous est teinté par le péché. Il y a seulement ce trésor de colère. Verset 6. Donc, Dieu qui rendra, donc Dieu, ou le jugement de Dieu, qui rendra, qui redonnera, ou qui récompensera à chacun selon ses œuvres. Donc déjà, lui ne sera pas jugé pour mes péchés. C'est moi qui sera jugé pour mes péchés. Et si moi, j'ai cru en Jésus, Dieu enlève tous mes péchés, et donc je suis effacé, tout ça c'est effacé. Okay? Mais c'est chacun selon ses œuvres. Et, je veux dire malheureusement, hein, Dieu enregistre tout. Toute action, parole, pensée, motivation, abstinence de bien, etc. Dieu enregistre tout. Ce n'est pas que Dieu serait mesquin. Non, ce n'est pas ça, mais il est Dieu. Il ne peut faire autrement. Il connaît tout. Sa connaissance est totale et éternelle. Sans moyen miraculeux pour effacer sa mémoire, Dieu est obligé d'agir dans sa sainte justice contre le moindre offense. Donc, c'est ce jugement-là qui est invoqué dans Apocalypse. Si vous voulez tourner, vous pouvez, c'est Apocalypse chapitre 20, versets 12 à 14. Vous pouvez simplement écouter. Apocalypse chapitre 20, versets 12 à 14. Non, je commence avec verset 11, excusez-moi. Verset 11. Puis, je vis un grand tremblant, et celui, donc ça c'est tout dernier à la fin du temps, fini, et voilà, c'est la dernière chose. Puis je vis un grand tremblant, et celui qui était assis dessous. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. C'est la même expression qu'on vient de voir. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc, je reprends seulement quelques petites phrases. Verset 12, chacun se tenait devant le trône. Des livres furent ouverts. Donc, c'est une grande quantité de volumes, de livres, des volumes, qui sont ouverts, pleins des œuvres. Verset 12 toujours, jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc, il utilise l'image de livre. C'est le mémoire de Dieu de tout ce qui s'est passé dans ma vie ou dans votre vie. Si on n'a pas accepté Jésus, ce volume ou ces volumes continuent à exister. Mais en croyant en Jésus-Christ, les volumes sont anéantis, disparus. Il n'y a plus. Okay? Verset 13, chacun fut jugé, c'est encore il dit, selon ses œuvres. Donc c'est ce trésor de colère qu'on a amassé contre nous-mêmes, qui va rendre témoignage contre moi-même ou contre la personne. Eh bien, ce sera un jour horrible, un jour terrible, mais un jour évitable. C'est ça la chose. La richesse de sa bonté, etc., nous pousse, nous amène, nous fraye le chemin à la repentance. Donc, c'est absolument évitable ce jour. On amasse le poids de sa culpabilité volontairement, tout en rejetant avec mépris la bonté de Dieu qui effacerait, donc conditionnel, cette culpabilité si seulement la personne s'humilie en acceptant le pardon en Jésus-Christ. Et puis dans le verset 15, on a lu, quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie. Quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie. Donc là, c'est-à-dire que avant de passer au jugement, Dieu vérifie le nom de la personne, de chaque personne. Il regarde dans le livre de vie pour vérifier que la personne est enregistrée ou pas. Donc ça fait partie du verdict, du tribunal. Donc Dieu demande globalement, son nom est-il écrit dans le livre de vie? Et je ne sais pas, un ange ou quelqu'un va dire, non, son nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Et Dieu dira, puisqu'elle a rejeté ma bonté abondante et mes efforts de l'amener à la repentance, ouvre donc les volumes de sa culpabilité, ces trésors de colère qu'on a amassés. Heureusement, tout le monde ne rejette pas la bonté de Dieu. C'est pour cela que se trouve cet autre livre, un livre unique au singulier. Et un autre livre fut ouvert, c'est encore dans le verset 12, celui qui est le livre de vie. Ce livre ne contient que des noms. Ce livre ne contient aucune œuvre. Pourquoi? Parce que l'on est sauvé par la foi et non par les œuvres. C'est que les noms. Ce livre est la liste des personnes qui ont accepté le pardon et la vie à travers l'Évangile. Notre paragraphe nous dit que le jugement de Dieu est selon la vérité, soit aux condamnations éternelles, soit au bonheur éternel. Et on va continuer à poursuivre cette idée la prochaine fois, mais je voudrais repérer quelques idées qui viennent de ce passage. Donc on va retourner au verset 4. Et là on va voir ce que ce passage nous apprend concernant le caractère de Dieu. Voilà, le caractère de Dieu. Au verset 4. Donc je le relis, ou méprise toutes les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Donc ce mot les richesses parle de l'abondance ou la plénitude, que ça soit matériel ou spirituel. L'idée c'est que Dieu met 100%. Ok? Dieu met 100% de bonté, de patience, de longanimité. Et c'est tout ce que Dieu peut faire dans ces domaines-là. Il le fait. C'est les richesses, l'abondance de ces choses. Bonté, c'est bonté ou bienveillance. Et une partie ou une expression de bonté, c'est l'amour. Ou c'est l'amour exprimé par la bonté ou bonté exprimée par l'amour. Okay? Donc ça parle de l'amour de Dieu quelque part. La patience et la longanimité, tous les deux veulent dire la patience. Mais c'est deux aspects différents de la patience. Ce n'est pas la même chose. Patience est un mot qui veut dire un délai, la tolérance. Donc, face à la provocation, Dieu s'abstient de punir. Il va falloir plus tard punir si quelqu'un ne vient pas à la repentance. Mais Dieu, il retient le jugement. Okay? Donc, il s'abstient de punir. Ça, c'est patience, premièrement. Le second mot, longanimité, c'est un autre mot pour patience, mais il n'a pas la même idée. C'est plus dans la persévérance et c'est une idée d'endurance sur la base de la miséricorde. C'est entièrement différent. Et là, c'est l'idée que Dieu prolonge l'opportunité. Donc, d'un côté, Dieu retient sa jugement et l'autre, il prolonge l'opportunité à se repentir. Et c'est le même mot qui se trouve dans 2 Pierre chapitre 3 et verset 9. 2 Pierre chapitre 3 verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Donc là, la promesse, c'est le jugement dont on parle. Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Et c'est le même mot, de longanimité. C'est la prolongation de l'opportunité envers vous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est toujours le même sujet. Dieu, il prolonge l'opportunité. Donc, on a la richesse infiniment abondante de Dieu qui exprime sa bonté, sa patience, sa longanimité. Et cette richesse dans tous ces domaines devrait nous amener... Donc, dans les Bibles, souvent, c'est poussé en français. Hein? Nous amener chacun à la repentance. Amener, donc je répète brièvement, ce mot qui signifie diriger en allant à l'avant. Donc, on est le berger est avant et le troupeau derrière. C'est Dieu qui ouvre le chemin, qui montre le chemin et c'est absolument conforme à l'idée que Dieu est un Dieu d'amour. Okay. Il y a un autre mot dans Jean chapitre 6 verset 44, un autre mot qui montre aussi la bonté infiniment abondante de Dieu. C'est le mot attirer. C'est pas le même mot, mais ça c'est dans le même contexte d'évangélisation, etc. Et ce mot attirer dans Jean 6 44, c'est comme la fleur qui attire l'abeille. Ou encore mieux, peut-être comme un aimant attire le fer. Un aimant là et le fer là, comme ça. Donc on va lire Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Okay? Donc ce verset dit que le salut commence non pas avec l'homme pécheur. Le salut commence avec Dieu qui attire. Et on veut bien être clair, ce verset ne dit pas que Dieu s'abstient d'attirer certaines personnes. Dieu attire tout le monde. Alors, on peut mettre un obstacle, et je ne veux pas, et c'est ça dans le paragraphe qu'on voit, volontairement, les gens négligent la repentance. Ils ne veulent pas se repentir. Mais Dieu attire constamment. Il est important de noter, quand même, il faut le noter, que dans la théologie, il y a certains mouvements qui ne diraient pas que la bonté de Dieu attire, mais que par un prétendu décret déterminant, Dieu impose la repentance sur certaines personnes. Donc, dans leur idée, c'est une fausse idée, le mot « amener » signifie une force irrésistible qui contraint la conversion des personnes présélectionnées. Et cette contrainte est contre leur volonté propre. Donc, ces idées sont des fausses idées et sont en fait opposées à l'idée d'un Dieu d'amour. Par amour, vous ne forcez personne à faire quoi que ce soit. Vous l'attirez, vous encouragez, vous encouragez, voilà. Donc Dieu aime le monde entier. Il veut que tous soient sauvés. Et Dieu est attristé et, dans le paragraphe, j'ai utilisé ce mot, insulté par le refus de sa grâce. Ce mépris volontaire alimente sa colère. Pourtant, ceci n'empêche, le fait que Dieu est encore plus en colère parce que les gens refusent, n'empêche pas que Dieu tende la main quand même, constamment en train de tendre la main, pour suivre ses activités dans l'objectif d'attirer les pécheurs à la repentance. Pourquoi? Parce que l'objectif de Dieu est la repentance des pécheurs. La bonté infinie mais abondante de Dieu t'amène à la repentance. C'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Alors, il ne faut pas avoir peur de ce mot « repentance ». Okay? Donc, je vais vous donner la définition. C'est mieux d'apprendre la signification. Tout simplement, le mot « repentance » signifie un changement de pensée. Voilà, un changement de pensée. Donc, mémorisez la définition. La repentance est un changement de pensée. Ça va tout le monde? Facile. La repentance est un changement de pensée. Donc, nous avons appris dans le chapitre 1 que à cause du péché, la pensée humaine a fait naufrage. La pensée humaine est abîmée. Et il faut que la pensée soit restaurée. La parole de Dieu est ce qui restaure, qui transforme la pensée humaine. Elle nous, donc, pour être conforme à la pensée de Dieu, ok? Elle nous fait connaître premièrement notre péché et puis aussi l'abondante bonté de Dieu. En particulier, l'amour de Dieu pour les pécheurs qui a été manifesté par l'Évangile. Quand Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité de la tombe. En prenant connaissance de cette bonté, en prenant connaissance de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ par l'Évangile, par la puissance miraculeuse, vous allez vous souvenir au chapitre 1, l'Évangile est la puissance miraculeuse de Dieu pour le salut de quiconque croit. Okay? Donc en prenant connaissance de cette puissance miraculeuse, une personne peut changer ses pensées, ce qu'il croyait auparavant, et peut mettre sa confiance dans l'Évangile. La repentance est ce changement de pensée. Quand une personne réagit à ce changement de pensée en acceptant Jésus-Christ pour son sauveur, eh bien la conversion est complète. La conversion est achevée, la personne est sauvée. Il est passé par un changement de pensée afin de croire en Jésus-Christ. Les ramifications à la suite de la repentance dans la vie de la personne qui s'est convertie à Jésus seront des diverses manifestations d'une véritable christianisme, une vie véritablement chrétienne, suscitée par le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit qui habite en nous. Okay? Mais les ramifications ne sont pas le salut. Ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose de bien, parce que je suis chrétien, que je vais être sauvé. On va être sauvé parce qu'on a cru en Jésus. Il a effacer tous nos péchés. Et en conséquence, donc ramifications diverses, eh bien, je vais à l'église et j'aime celui-là, et puis je prie pour l'autre et je fais des autres choses parce que Jésus m'a sauvé. Donc, juste pour faire une petite application de quelques idées, parce qu'il y a plein d'idées, n'est-ce pas? Donc, premièrement, je vous encourage à mémoriser la définition de ce mot « la repentance », qui veut dire tout simplement un changement de pensée. OK? La repentance est un changement de pensée. Et puis, à rappeler que le jugement de Dieu s'exerce selon la vérité. Dieu ne triche pas, il ne se trompe pas, c'est selon la vérité. OK? Aussi, donc, il faut se poser la question où vous en êtes dans tout cela. Donc, il y a son jugement de condamnation. Soit c'est toujours actif, soit c'est fini, parce que Jésus a tout enlevé. OK? Soit Dieu est satisfait par Jésus-Christ en ce qui vous concerne, parce que vous avez mis votre confiance en lui, ou bien Dieu est toujours en colère avec vous parce que vous refusez l'Évangile, sa grâce, sa bonté, sa richesse, tout ce qu'il fait pour vous persuader. Méprisez-vous encore la bonté de Dieu, Dieu qui retient sa colère par sa persistance patiente à votre égard. Et si aujourd'hui vous n'êtes pas encore sauvé, donc ne tardez pas de venir à Jésus. Par lui, par l'Évangile, Dieu écrira votre nom dans le livre de vie et efface, annule tous ces volumes qui sont écrits à votre sujet. Et ça, c'est spectaculaire. Amen?
Amen.
Amen. Donc, on va parler un petit peu plus de ça la prochaine fois. Et j'espère que ces explications vous aident. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de, bien sûr, demander. Mais bon, Billy, j'ai rien compris là. Donc, aussi, je peux globalement vous donner le texte à l'écrit, si ça aide. Peut-être certains qui ne parlent pas trop bien français veulent revoir les choses écrites, etc. Donc, n'hésitez pas. OK? Que le Seigneur vous bénisse.